et on les fit passer, porte après porte, à toutes les alcôves, avec un secours que 2000 ans de médecine n'avaient su offrir. En 10 mois, on fit reculer 10 ans de peste. Voici l'histoire du citronnier du Seigneur telle qu'on la trouve à peu près sous la plume du poète André Heloy Blanco dans les livres de mon pays. C'est ainsi que la maison du vieux créole fut rasée et qu'on éleva une église aux murs de pierre et au parquet sali face au citronnier. On nomma l'église comme le village, Saint-Paul du Limon. C'était une humble basilique, sans orgue ni ornement, au plafond lambrissé qui finissait sur une arrière-cour plantée de grenadiers. Le bénitier ne manquait jamais d'eau. La nef faisait retentir les cantiques jusqu'aux abords du village. Les vitraux racontaient aux illettrés les passions et les supplices du calvaire, tandis que, dehors, la chaleur était si lourde que toutes les portes restaient fermées jusqu'à l'heure des vêpres. Aucun pape ne vint consacrer l'autel et le chevet. Aucune sculpture ne vint habiter le cloître. On posa l'effigie du Nazaréen de Saint-Paul contre un des piliers de la nef, et les femmes se levèrent avant l'aube pour mettre des sous dans le tronc. De nombreux pèlerins venaient de loin pour se recueillir devant la statue. La rumeur atteignait les abbayes. On vit apparaître des moines, des chercheurs d'or, et même un curé qui, sentant l'amande et la muscade, ignorant le latin, s'occupa de garder la relique. Au premier meurtre du village, on construisit avec les mêmes pierres la première prison et le premier cimetière. Dans les ruelles concouraient des voleurs et des vagabonds, puant le bois et l'opprobre, mais aussi des hommes de diligence qui avaient marché depuis la ville pour acheter moins cher. C'étaient des montagnards et des caravaniers, des chrétiens suivant la promesse d'un archevêque, des nomades. Ils s'arrêtaient quelques jours pour manger chaud. Tous ces hommes répétaient qu'ils n'étaient que de passage. Ils visitaient les cantines et les dépendances, souriaient à une douce aubergiste et, finalement, y restaient toute leur vie. À la lisière d'un petit terrain, ils élevaient alors un moulin, labouraient un potager près d'une gorge d'eau et s'abandonnaient sans résistance, sous un ciel dont la rondeur faisait rouler le soleil à un temps qui ne connaissait pas de saison. Les gens prirent l'habitude de mesurer l'importance d'une maison au nombre de ses fenêtres. On écrivait le nom des rues sur des plaques en bois portant les noms de ceux qui les avaient habitées. La rue de l'hôpital était celle de l'hôpital, la rue des sœurs celle du couvent. Dans la rue Docteur Domínguez habitait le vénérable Docteur Domínguez et dans la rue des Cornards, qui ne touchait en rien à l'honnêteté des dames, se trouvait l'abattoir où l'on déchargeait les cornes du bétail. Tout n'était que musique et vacarme, brume et soleil. Les rigoles d'irrigation devenaient des ruisseaux de fange où les porcs faisaient de longues siestes et que les pluies tropicales, tombant à rompre, ne parvenaient pas à nettoyer. On entendait au loin les mangues s'écraser au sol et les coqs se battre dans les gallodromes. Le vent traînait la rumeur des bœufs, leurs sabots soulevant la poussière, et les places servaient de forums, de foires et de promenades. Sous des tendeliers en feuilles de cocotier, des commerçants se réunissaient pour créer les premiers marchés. On écoutait le halètement des bêtes remontant la pente, chargées de girofles et de piments verts, d'encres et de perles, l'échine courbée sur des cages de perroquets. Des écrivains publics faisaient payer une fortune les lettres d'amour. Les vieux comptaient les mois en grains de maïs, et les marchands racontaient aux enfants des légendes pour les éloigner de la nuit. C'était une époque simple et craintive. Le village n'était alors menacé que de superstitions et de croyances populaires, si bien qu'il n'était pas rare de voir, autour de la place, vers la fin du soir, un homme, au dos d'une vieille mule, faire une dernière ronde avec un fusil pendu à l'épaule. Avec le temps, touffu et foisonnant, le flanc de la colline se gonfla de baraques et de blocs, la vie ne cessant d'apparaître. Année après année, Il se chaussa de pierres et se peupla d'hommes qui fuyaient la misère.